bienvenue à votre podcast du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy.
Allô, allô, bienvenue dans le Lobster 139.0. Bon, attachez vos pinces et préparez-vous à plonger dans l'univers délicieusement éclectique de ce podcast. Et oui, je suis votre hôte déjanté, prêt à vous emmener dans un voyage où l'humour rencontre la curiosité. Alors, mettez vos écouteurs, ajustez vos antennes et laissez-vous emporter par les vagues sonores de « Son of my father » de Giorgio. Car ici, mes amis, on ne fait pas dans la coquille molle. Et là là, est-ce que ça ressemble pas à une intro écrit par ChatGPT, hein? Ben oui, mon nouvel ami ChatGPT, avec qui je jase de plus en plus. Donc, c'est ça, on commence comme ça. Le Lobster 139, eh bien, il vient de se passer quelque chose. J'ai enregistré la suite du Lobster, et là, c'était comme un sujet improvisé, puis je pensais que ça durerait 10-15 minutes, que ça serait juste un petit segment du Lobster 139. Puis là, moi, j'ai préparé, j'ai pour plus d'une heure de choses que j'ai déjà préparées, puis là, je m'étais dit, je vais juste insérer mon petit bout improvisé, mais mon petit bout improvisé, il dure plus d'une heure. Fait que là, j'ai quasiment fait un podcast juste à parler de cartes de Magic, de parler de cartes de Star Wars, puis parler d'autres choses. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais splitter le podcast en deux. Si vous aimez entendre parler des jeux de cartes, vous pouvez continuer à écouter ce podcast-là. Pendant une heure, je parle de Star Wars, l'Orcana, c'est des nouveaux jeux de cartes qui s'en viennent. Et ensuite, je vous parle de mon jeu cité. C'est quoi le mécanisme de mon nouveau jeu que je suis en train d'inventer. Puis c'est ça, j'ai improvisé, mais pendant une heure, je vous explique ça. Moi, je trouve que c'est quand même intéressant, donc je vous encourage à rester et à écouter ça. Mais je vais splitter le podcast en deux. Fait que là, 139, avec ce que j'ai improvisé, il est déjà fini. Puis tout de suite après, ben, je commence à enregistrer 140 avec ce que j'avais préparé, là, qui est plus un peu structuré. Donc, je vous publie le podcast 139 et le 140 suit dans quelques heures. Bye bye! Hola amigos, comment ça va? Moi ça va bien. Cette semaine, j'ai quelques bons petits sujets là, à jaser avec vous. Mais avant, j'ai mes petits sujets là, comme improvisés. Des choses pour lesquelles j'ai juste écrit un mot sur mon papier. Et j'ai écrit, ben, bonne fête à mon ami Martin cette semaine. C'est le début de des fêtes de 50 ans de mes amis. Eh bien, c'est Martin qui lance la balle 1er décembre, 50 ans. Après ça, c'est moi le 5 décembre, 50 ans. Puis après ça, mes deux autres amis, là, Étienne et Nicolas, ben ça viendra durant l'année prochaine. Donc, c'est le début de nos 50 ans. On est allé manger au restaurant hier soir et c'était bien. C'était bien le fun là, de passer la soirée ensemble là, à jaser. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Donc, bonne fête Martin, c'est fait. Quoi d'autre? Et oui, je voulais vous parler de mon nouveau jeu que je suis en train de mettre en place, le jeu Cité. Mais avant, Cité, c'est un jeu comme Magic the Gathering là, que je suis en train d'inventer. Mais avant, je voulais vous parler de d'autres jeux qui s'en viennent. Bon, moi, je joue à Magic the Gathering depuis quasiment le début du jeu, là, que ça date, je ne me rappelle plus, ça fait une trentaine d'années que, que c'est commencé ce jeu-là. Puis moi, j'ai débuté à jouer à la version 3e, Revise. Et les gens avec qui je jouais à l'université, eux, avaient des cartes de Unlimited, avaient des cartes de bêta. Je me souviens qu'à un moment donné, quelqu'un avait acheté un deck de départ. Non, pas un deck. Oui, c'est ça, c'était comme un deck de départ. Non, en fait, c'était l'équivalent des paquets booster, mais en plus gros dans une boîte. Et dans sa boîte, il ouvre la boîte, c'était une boîte Unlimited. Puis là, il monte, il dit, gars, il dit, moi, j'ai eu une Mox, il y avait la Mox Pearl dedans. Il dit, cette carte-là, là, ça vaut au moins 30$, OK? Puis j'ai dit, moi, à cette époque-là, moi, je commençais à Magic, puis je me disais, 30$ pour une carte quand même, là, c'est bien trop cher. Et combien vaut cette carte en ce moment? Valeur d'une carte, valeur d'une Mox Pearl. Mox Pearl Price Charting. Comment elle vaut? Bon, elle vaut. Bon, 12 000 $ en ce moment. C'est dans les cartes les plus fortes à Magic. Là, c'est une carte que tu mets en jeu, elle coûte 0, puis elle te donne un mana pour jouer tes cartes. Donc, où est-ce que je m'en allais avec ça? Oui, je voulais vous parler des nouveaux jeux qui s'en viennent de cartes. Cette semaine, durant la nuit, je sais pas pourquoi, cette semaine, je me réveillais la nuit, puis je travaillais sur mon jeu, là, Cité, que je suis en train d'inventer. Puis en parlant avec ChatGPT pour inventer le jeu, tout ça, puis en faisant des recherches sur Internet, j'ai découvert qu'il y avait deux jeux qui s'en venaient là, de cartes. Il y a le jeu Star Wars Unlimited. Moi, j'ai joué dans les années 2000. Au premier jeu Star Wars qui a été fait, un jeu de cartes évidemment, ça avait été fait par Richard Garfield, celui qui a inventé Magic. Le jeu était, c'est un jeu qui était quand même bien fait. Il y a eu beaucoup de sets, là, je ne sais plus combien exactement. Au début, c'est Magic qui sortait, je pense, les 5 premiers sets. Après, il y a eu comme un comité qui a sorti une dizaine d'autres sets. Le principe était bon, c'était basé comme sur Magic, mais ce qu'il y avait en plus, c'est qu'il y avait des planètes sur lesquelles tu pouvais envoyer des vaisseaux. Il y avait une zone d'attaque dans l'espace, il y avait une zone d'attaque sur des planètes terrestres. Donc, puis là, évidemment, tu avais tous les personnages de Luke Skywalker, Darth Vader, toutes ces affaires-là. Donc, moi, j'ai joué au début. J'ai eu la chance parce que moi, je jouais à Magic dans ce temps-là. Et le tournoi Magic, dans ce temps-là, faisait des tournois pour couronner le meilleur joueur au monde. Puis, il faisait des tournois au Canada, aux États-Unis. Puis, à un moment donné, ils s'en allaient tous aux États-Unis pour jouer. Et en jouant à ces tournois-là de Magic, j'ai connu le joueur qui avait gagné pour le Canada, qui avait gagné pour aller se battre là, aux États-Unis pour le titre de numéro 1. Puis vu qu'il avait gagné au Canada, puis qu'il était à l'université comme moi à même place, ben lui, il avait gagné en gagnant le numéro 1, il avait gagné plein de boîtes de Star Wars. Puis il m'avait dit un soir, il dit, gars, viens chez nous, là, je vais te griller en. Puis là, il m'avait tout donné, là, Luke Skywalker, toutes les planètes, tu sais, la grosse planète, la Death Star. J'avais tout, puis j'ai joué avec, mais sauf que c'était la seule personne avec qui je pouvais jouer à Star Wars. Puis qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai vendu mes cartes comme d'habitude. Mon frère m'en veut encore que j'ai vendu mes cartes de Magic, mais bon, j'ai vendu Star Wars, j'ai vendu Magic, mais là maintenant je rejoue seulement à Magic et je crée mon jeu pour si je crée mon jeu, je pourrais toujours m'imprimer des cartes, je les vendrai pas. Bon, donc où est-ce que je m'en allais avec ça? Oui, c'est ça, Star Wars Unlimited, il sort début 2024. C'est en ce moment les précommandes. Les prix des cartes sont raisonnables. Une boîte, je pense que j'ai vu ça à 119 à Toronto. 10$ de shipping, ça fait 130$ la boîte. Donc, ça, c'est un jeu qui s'en vient. La seule chose, j'ai lu les règles, ça ressemble un peu à l'ancien jeu. Il y a des attaques terrestres, des attaques que tu peux mettre en place, des planètes. Il y a deux zones. À gauche de ton deck, c'est les attaques terrestres. À droite, c'est les attaques avec en volant, là, avec les X-Wing, ces affaires-là. La seule chose, c'est que les dessins, je les ai regardés puis je les trouve pas beaux, les dessins sur les cartes. À date, c'est le seul défaut que je trouve au jeu parce que la logique du jeu, bon, ça semble bien, ça se base un peu comme Magic. Là. Magic, toutes les règles qui avaient été patentées il y a 30 ans sont tombées dans le domaine public, donc on peut réutiliser leur logique. Donc, Star Wars utilise les logiques de Magic. Quand tu mets une carte en jeu, tu peux taper pour faire le pouvoir ou donner du mana, etc. Fait que c'est ça. Donc, Star Wars Unlimited, pour ceux là, qui sont amateurs un peu de jeu, ça s'en vient. Donc, c'est le temps de commander vos boîtes. Sinon, la semaine passée, mon frère m'a parlé aussi d'un nouveau jeu qui s'appelle Lorcana. C'est le nouveau jeu de Disney. C'est basé un peu dans le style de Magic, encore une fois. Nouveau jeu de cartes. C'est des trading cards, des jeux de cartes à collectionner. Puis là, Lorcana, c'est distribué par Ravensburger et tout de suite, ils ont été en rupture de stock. Fait que là, les cartes ont pris de la valeur comme ça se peut pas. Là, ce que je lis sur... Là, en ce moment, il y a un premier set qui est sorti, The First le premier chapitre, et le deuxième, c'est The Rise Bloodhorn, qui lui vient tout juste de sortir. J'imagine c'est pour ça que mon frère en a entendu parler puis qu'il m'en a parlé. Et là, il n'y en a plus, évidemment, avant Noël à vendre. C'est difficile à trouver. Ceux qui ont des... Le jeu a été présenté fin 2022 dans un... Je sais pas quoi, là, dans une convention. Puis les cartes qu'ils donnaient à ce moment-là se vendent déjà 1000 à 2000$ de la carte promotionnelle. Fait que c'est malade. En ce moment, j'ai vu que les cartes de la première édition de First Chapter, pour acheter une boîte, c'est une boîte là, de 24 paquets qui ont chacun 12 à 13 cartes. C'est en haut de 500$. Ça n'a aucun bon sens. Tout se vend deux fois le prix, deux fois et demi le prix de départ. Les paquets, c'est quand même cher. Là. Le prix standard de départ chez GameStop, c'était 8$ pour la nouvelle édition. Puis là, moi, j'ai quand même réussi à acheter deux decks de départ de Lorcana. Combien j'ai payé ça, je m'en souviens pas, mais j'ai acheté ça à Toronto dans une boutique qui n'avait encore. Et combien ça m'a coûté si je regarde? Ici, order confirmé. Combien j'ai payé? OK. J'ai payé 64$ plus 10$ de shipping. J'ai payé 70$, donc 35$ par deck de Disney. Puis en gros, c'est quoi leur jeu? Eh bien, c'est comme Magic, mais plus enfantin, je vous dirais. Magic est le jeu le plus compliqué sur la Terre, mais dans la version de Disney, c'est qu'ils ont simplifié un petit peu les choses pour essayer d'attirer les enfants un peu plus jeunes. Parce que là, sur les cartes de Mickey, qui sont sur les cartes de Lorcana, c'est magnifique. Là, les dessins, c'est des images de Mickey, des images de Donald, Minnie, Cruella, Cendrillon, Peter Pan. Les cartes sont magnifiques. L'univers de Disney, ils sont tous allés chercher... sont allés piger dedans, puis là, ils sortent des choses. Puis là, c'est ça, dans les cartes, par exemple, Mickey, dans le premier chapitre, la carte vaut déjà en haut de 100$. C'est entre 5 et 200$ les meilleures cartes là, en ce moment. Les cartes rares là, des personnages. Fait que là, j'ai hâte de voir. Bon, c'est par curiosité que j'ai commandé deux decks de départ, là, juste pour pouvoir jouer puis dire que j'en ai aussi, parce que en ce moment, je suis en train de développer un jeu, puis j'aime bien ça, voir qu'est-ce que les autres jeux font, avoir les cartes devant moi pour les regarder. Moi, j'ai joué à plusieurs jeux. Là. J'ai joué à Magic, j'ai joué à World of Warcraft. Ça, je me suis aperçu que j'ai joué quand ce jeu-là a démarré, puis j'avais acheté le début, tout ça, puis j'ai plein de boîtes au sous-sol. Ils vendaient ça dans des belles boîtes en plastique, gros format, ou que c'était tout bien placé. En tout cas, j'ai plein de cartes de World of Warcraft au sous-sol. Donc, moi, je regarde tous ces jeux-là qui sont sortis, Star Wars, Il y en a plein d'autres, là. Ben, c'est ça. Là, je regarde le Star Wars Unlimited, j'ai lu les règles, je regarde Disney, et je suis en train de bâtir mon propre jeu. Bon, mon jeu va se nommer comment? Mon jeu va se nommer Cité. Le jeu, le but du jeu, eh bien, c'est une cité qui affronte une autre cité. Bon, c'est un jeu de cartes. Pour commencer le jeu, si je vous explique votre jeu, je vais essayer de vous expliquer mon jeu, juste pour voir si ça fait du sens dans ma tête. Donc, cité, c'est quoi? Cité, quand tu commences le jeu, c'est un peu comme Magic. Évidemment, je reprends les mêmes mécanismes, mais à la différence, quand tu commences le jeu cité, tu dois mettre en jeu ta carte de cité, c'est elle qui va te représenter. Chaque joueur, chaque cité a 30 points de vie et tu mets une carte de jeu cité en jeu quand tu débutes. Par exemple, si moi je joue ma carte de cité... je prends Cité de Camaral Anja. Ça, c'est dans le jaune. Moi, mon jeu va avoir 6 couleurs, à la différence de Magic qui a 5 couleurs. Moi, ce que j'ai fait pourquoi j'ai pris 6, c'est que j'ai pris le cercle chromatique des couleurs. Tu sais, il y a jaune, bleu, rouge. Quand tu mélanges jaune et rouge, ça donne orange. Donc, si tu mélanges jaune et bleu, ça donne vert. Et bleu et rouge, ça donne violet. Donc, ça donne 6 couleurs en tout, le cercle chromatique. Donc, moi, je me suis basé là-dessus. Donc, quand tu regardes le cercle, le jaune est opposé au violet sur le cercle, tandis que le bleu est opposé à l'orange et le rouge est opposé au vert. Donc, ça fait des choses un peu... ça permet d'opposer mes différentes couleurs et ça permet de les mettre comme en compétition. Et une des particularités de mon jeu, pour ceux qui jouent à Magic, ben vous savez que pour mettre vos cartes en jeu, vous devez taper une carte pour donner du mana, c'est les terrains. Moi, dans mon jeu de cité, vu que c'est lié aux villes, aux villages, ça va être de l'innovation. Et dans mes 6 couleurs, il y a 6 types de choses que je veux représenter. Par exemple, mon bleu, c'est les cités portuaires. Donc lui, dans mon set de base qui va sortir, tout le bleu va être tourne autour de l'histoire des pirates. Donc, c'est des créatures de pirates. C'est quoi que j'ai d'autre là-dedans? Des pirates, des draken, des créatures volantes, des rois pirates. Bon, c'est un peu ça autour du bleu. Ensuite, j'ai... si je retourne ici, description. Ensuite, j'ai le rouge. Rouge, c'est cité guerrière. Si je regarde sur ma feuille, cité guerrière, ça, c'est l'univers des samouraïs. Ensuite, j'ai le jaune, c'est les cités merveilles. Tout est basé autour des mille et une nuits. Donc, j'ai des cartes qui ont rapport, par exemple, avec le Moyen-Orient, Bagdad, Alibaba, ce genre de choses. Sherazade, ça va être dans le jaune. Ensuite, l'orange, c'est lié, c'est culturel. C'est de l'innovation culturelle qu'on va jouer quand on tourne les cartes orange. Et le thème autour du orange, c'est la Renaissance italienne. Donc, c'est toute l'époque de Léonard de Vinci. Donc, j'ai un de mes héros dans l'orange, sera Léonard de Vinci. Ensuite, le violet. Violet, c'est cosmique. C'est de l'innovation cosmique. Donc, c'est tout l'univers autour de l'alchimie. Puis, quand on parle d'alchimie ancienne, on parle de la pierre philosophale. Donc, toutes les légendes autour de ça. Et tout ce qui a rapport un peu à l'ésotérisme cosmique. Bon, vous voyez le genre. Et finalement, dernier, le vert, c'est l'innovation chevaleresque. C'est tout ce qui est autour du cycle arthurien. Donc, vous voyez, mes 6 couleurs ont chacun un thème. Et quand je crée des cartes, eh bien, la carte doit rentrer dans le thème de la couleur, évidemment. Ensuite, donc, je vous disais, quand on débute le jeu, qu'est-ce qu'on fait? On prend une cité, on la met en jeu. La carte de cité va avoir un pouvoir que vous allez pouvoir... va toujours avoir un pouvoir qui se fait à l'étape cité. Parce que dans Magic, c'est toujours... Il y a des règles qui disent les tours se font comment. C'est toujours... début du tour, après ça, untap, tu détapes tes cartes. Upkeep, c'est l'entretien ou que les cartes, s'ils ont des choses à faire, ils les font. Mais moi, ce que j'ai rajouté dans mes règles, c'est qu'on a l'étape de début de tour, l'étape de dégagement, l'upkeep, l'étape d'entretien, c'est le upkeep, et après ça tu piges, et ensuite j'ai deux nouvelles étapes moi dans mon jeu, j'ai l'étape de cité, c'est durant cette étape que certaines cités vont faire leur pouvoir, et ensuite vient l'étape de loterie, je vous parlerai des cartes de loterie par la suite, et par la suite c'est les règles normales de Magic, je veux dire les mêmes étapes. Donc si on regarde une cité par exemple, qu'est-ce qu'elle pourrait avoir comme pouvoir? J'ai la cité de Périgny, qui est dans le Orange Cité Culturelle. Son pouvoir, c'est qu'une fois durant la partie, vous pouvez obliger un joueur cible à se défausser de 5 cartes. J'ai mis d'une carte, mais là, je vais le revoir si c'est une ou plusieurs. Donc, à l'étape de cité du joueur, la cité va lui donner ce pouvoir-là de le faire une fois dans la game, d'enlever des cartes à l'autre joueur. Si on regarde dans Cité Cosmique, il y a une des cités qui s'appelle Cité des Secrets Astro. Le pouvoir, c'est la taille de votre main de départ est augmentée de 1. Donc, quand tu vas débuter le jeu avec ta Cité des Secrets Astro, tu vas automatiquement avoir une carte de plus pour commencer le jeu. C'est le pouvoir qu'elle te donne. Bon, un autre pouvoir, Cité Immunitaria, elle... Les citoyens à l'abri de votre cité et de ses structures sont immunisés contre les maladies. Bon, dans mon jeu, j'ai des cartes de maladies et de fléaux et j'ai un autre concept, j'ai des cartes de structure. Donc, je vous en parle maintenant. Donc, comme je vous disais, on a les cartes de cité, chacun décolle avec sa carte de cité et de chaque côté de ta cité, tu vas essayer de la bâtir pour te donner pour essayer de la protéger. Donc, on va pouvoir mettre 3 cartes de structure à gauche et à droite de la cité. Les cartes de structure, c'est quoi? Ben, par exemple, il y a une carte de structure qui pourrait s'appeler Tour de guet. La tour de guet peut bloquer les attaques volantes. Donc, c'est l'équivalent d'une créature volante qui a des. Mais là, c'est une carte de structure qui est fixe. Tu la mets à côté de ta cité. Et si quelqu'un t'attaque avec une créature volante, ta tour de guet va pouvoir le bloquer. Elle a évidemment un chiffre d'attaque et un chiffre de défense. Ensuite, quoi d'autre? On a une carte de structure qui pourrait s'appeler prison. Qu'est-ce qu'a fait la carte prison? Elle permet d'emprisonner un citoyen. Le citoyen reste tapé. Il peut s'échapper s'il y a un 6 lors de l'étape cité. Donc, on va avoir une carte de structure qu'on met en jeu. Et si on est attaqué par les citoyens de l'autre côté, citoyen, c'est l'équivalent de créature. Si un citoyen t'attaque, tu peux dire, ben là, il est bloqué par je l'ai emprisonné dans ma prison. Mais à son tour, quand il va faire son étape de cité, le joueur va pouvoir tirer un dé. S'il réussit à avoir un 6, ben au moins son citoyen a pu s'échapper de la prison et retourne de son côté. Puis évidemment, à ce moment-là, la carte de prison sera détruite parce que sinon, ça ferait pas de sens parce que là, il emprisonnerait dès qu'il attaque. Bon. Donc, tous ces mécanismes-là seront dans les règles pour les structures. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je vous disais de nouveau? Il y a les cartes de loterie. Bon, à l'étape de loterie, un joueur va pouvoir, à l'aide d'un dé, va dire s'il joue à la loterie ou non. Et les cartes de loterie, c'est des cartes qui jouent avec un dé. Puis c'est toujours, si tu as un 1, c'est un pouvoir qui est un peu négatif, mais sur le 5 ou le 6 ou les autres chiffres, tu as toujours un effet bénéfique qui fait que ça vaut la peine d'aller essayer de jouer à la loterie. Donc par exemple, il y a une carte de loterie que j'ai inventée qui s'appelle Paris Cruel. Tu lances le dé. Si tu as 1, ton adversaire épige 2 cartes, puis la carte de Paris Cruel est détruite. Ça, c'est méchant. Si tu pognes ça au début, le premier coup que tu joues ta loterie, tout ce que ça a fait, c'est que le joueur adverse a pigé 2 cartes. Mais, bon, si tu as 2, 3 ou 4, bon, aucun effet. Mais, si tu as 5 ou 6, toi, tu piges une carte. Fait que si on regarde, il y a toujours plus de chances que toi, tu aies un effet positif, que l'adversaire ait un effet qui est bénéfique pour lui, puis que ta carte soit détruite. Donc, c'est un peu ça, les genres de cartes de loterie. Si on en regarde une autre, j'en prends une autre au hasard. Aléa du sort, carte de loterie, lancez un D6. Si tu as un, sacrifiez un de vos citoyens et pigez une carte, puis la carte est détruite. Donc là, si tu as pogné un, tu es obligé de sacrifier un de tes citoyens, mais en contrepartie, tu piges quand même une carte. Mais si tu as 3, chaque joueur sacrifie un citoyen. Fait que ça, si tu joues dans un deck où ta stratégie, c'est pas de jouer nécessairement, c'est de débarrasser, que tu veux te débarrasser des créatures, ça peut être bon. Et si par exemple tu as 5, là c'est marqué renvoyer un citoyen ciblé dans la main de son propriétaire. Donc ça te permet sur 5 de lui remonter ses créatures dans les mains. Et sur 6, tu fais détruire un citoyen ciblé. Donc, en plus, si tu pognes 6, c'est toujours le meilleur pouvoir. Et là, dans ce cas-là, tu peux détruire un citoyen que tu cibles. Donc, jouer à la loterie, tu vas avoir le droit de jouer une fois par tour, durant le tour de loterie si tu veux. Et tu vas toujours avoir au moins 2 chances d'avoir quelque chose de positif ou une chance d'avoir quelque chose de négatif. Il y a des choses où, par exemple, si je regarde renforcement populaire, si tu joues un 1, là, tu es obligé de mettre un compteur permanent de -1, -1 à chacun de tes citoyens. Tu piges une carte, puis la carte est détruite. Fait que c'est très méchant si tu fais ça. Mais, sur 2 et 3, tu choisis un de tes citoyens, il gagne un +1, +1, +0 jusqu'à la fin du tour. Sur 4 et 5, il gagne +0, +1. Fait que là, il augmente sa défense. Dans l'autre, il augmente son attaque. Et en, si tu pognes un 6, là, il gagne +1, +1. Fait qu'il gagne, il augmente son offensive et sa défensive. Donc, sur 2, 3, 4, 5, 6, tu as quelque chose de positif. Mais si tu pognes 1 et tu es malchanceux, là, tu as quelque chose de vraiment méchant. Parce que là, tous tes citoyens à toi vont avoir un -1, -1. Donc, c'est... Ça, moi, je pense que ça vaut la peine. Je vais l'essayer, c'est sûr, parce que t'as 1, 2, 3, 4, t'as 5 chances sur 6 d'avoir quelque chose de positif. Si t'es le moindrement chanceux, t'auras jamais un. Puis bon, ça va t'avantager beaucoup. Donc, c'est ça le principe derrière les cartes de loterie. Avoir quelque chose de positif qui arrive à, de ton côté. Ensuite, là, on vient de parler des cartes de structure. Maintenant, il faut parler un peu de la mécanique de jeu. Dans mon jeu de cité, l'attaque... attaquer la cité de l'autre se fera pas comme dans Magic. Dans Magic, tu fais juste dire lui, telle créature attaque, puis tu fais juste les taper pour dire qu'il attaque. Dans mon jeu, tu dois passer par un lieu parce que faut que tu te rendes à l'autre cité. Il y a comme une zone vide dans le milieu où que c'est la zone où il y a des lieux. Puis chacun des lieux, c'est inscrit dedans combien il te laisse passer de créatures. Donc, disons que tu as 5 créatures en jeu, 5 citoyens de ton côté en jeu. Et que tu veux attaquer l'autre bord. Si tu veux que tes 5 citoyens attaquent la cité adverse, tu dois avoir pour 5 espaces de lieux de disponibles pour attaquer l'autre côté. Par exemple, on peut avoir une carte en lieu, de lieu que tu as mis en jeu qui s'appelle Chapelle du Saint Graal. Elle permet de laisser passer un citoyen pour un coup de 4, mais le pouvoir. Ces cartes-là de lieu ont deux pouvoirs. Il y a un effet global, que l'effet global, lui, se fait toujours. Donc, par exemple, j'ai une carte, si je vous lis un effet global, j'ai la carte Vallée de la mort, c'est un lieu. C'est une carte que qui laisse passer 3 citoyens pour aller attaquer l'autre côté. Et elle a comme effet global, votre cité ne peut être la cible d'attaque aquatique. Ça fait du sens parce que, vous savez, la Vallée de la mort, c'est la place où il fait le plus chaud au monde, là, qui a fait 54 degrés. Donc, si la Vallée de la mort est entre toi et un lieu que toi tu mets autour de ta cité, ben quand l'autre il t'attaque, il ne peut pas t'attaquer avec des créatures aquatiques. Ça fait pas de sens si la Vallée de la mort te protège. Fait que c'est le genre d'effet global que ce genre de cartes-là, de lieux, vont pouvoir donner. Mais sinon, si on revient à l'effet local, lui, va se faire seulement lorsqu'une créature traverse le lieu. Comme je vous disais, la carte, il y a un nombre maximum de citoyens qui peut passer par là. Donc, par exemple, si tu passes dans une grotte, et ça, là, j'invente ça, là. Attends, on va en prendre un qui existe. Si on prend la carte Tunnel de lave, c'est une carte de lieu, et l'effet local, c'est marqué « Les citoyens qui traversent le tunnel de lave ne sont pas affectés par les cartes de météo. » Donc, je peux envoyer 3 de mes citoyens attaquer l'autre côté, puis ils ont le droit de passer dans le tunnel de lave, qui est comme souterrain, et ils arrivent de l'autre côté, ils font leur attaque, comme à Magic normal. Mais là, c'est ça. C'est quoi je voulais dire? Tunnel de lave, nanana, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Là, je viens de parler de cartes de météo en plus. Les cartes de météo, je vous en parle par la suite. Donc, c'est ça. Vous avez des cartes de lieu que vous devez mettre en jeu pour pouvoir attaquer l'autre. Mais les cartes de lieu, toi, tu peux juste utiliser les cartes de lieu que toi, tu as mis en jeu et ton adversaire, évidemment, peut juste utiliser les siennes. Parce que c'est comme, moi, je voyais le principe, c'est comme si tu pars à l'attaque de l'autre ville et en allant attaquer, tu découvres des endroits par où passer. Fait que moi, j'ai découvert, pour me rendre à la cité de mon adversaire, de mon nouvel adversaire, j'ai découvert qu'il y a un tunnel de lave qui me permet d'y aller directement sans me faire affecter par les cartes de météo. Par exemple, j'ai une autre carte qui s'appelle Cimetière des ombres. Elle, l'effet local, c'est que dès qu'il y a un de tes citoyens qui passe par là, l'effet local se fait et c'est écrit « Si la cité est attaquée, à 3 cartes au moins dans son cimetière, infligez 2 points de dégâts à cette cité. » Donc, c'est un pouvoir qui est lié autour des cimetières. C'est comme si on arrive dans le cimetière de l'autre ville et puis si on voit qu'il y a beaucoup de cartes de mortes dedans, ben là, c'est un pouvoir qui se déclenche. Fait qu'on voit, c'est le genre de cartes que j'essaie d'inventer. Par exemple, j'ai la carte Forêt d'Avalon. Elle a coûte 2 verres à mettre en jeu. Permet de laisser passer 2 citoyens. Puis ça dit, si votre cimetière contient un chevalier, vous pouvez piger une carte. Donc ça, c'est c'est un peu comme pour te donner le goût d'attaquer. Parce que piger dans le jeu cité ou piger dans Magic, c'est un gros avantage. Plus tu as de cartes, plus tu peux faire de choses. Donc, c'est pour ça que quand tu mets en jeu la carte de lieu Forêt Avalon et que tu vas envoyer un citoyen attaquer l'autre barre, ça va déclencher son pouvoir. C'est comme si, dans le fond, les lieux sont magiques. Quand tu arrives au milieu de la Forêt d'Avalon, ton citoyen active le pouvoir et c'est là que tu as le droit de piger une carte. Donc, quelqu'un qui joue Forêt d'Avalon, ça va l'inciter à attaquer chaque tour parce qu'il va vouloir avoir l'effet de piger une carte. Voilà. Fait que là, chacune des couleurs, évidemment, a des cartes pour lui. Les cartes de lieux de cité, par exemple, j'en ai une qui s'appelle Port Royal et c'est lié, évidemment, aux pirates. Le pouvoir, par exemple, de Port Royal, le pouvoir local, à chaque fois qu'il y a un citoyen qui passe par là, ça dit « Les pirates qui traversent Port Royal gagnent +1/+0 jusqu'à la fin du tour. » Donc, tu as avantage à envoyer tes citoyens attaquants par Port Royal. Lui, il permet d'en laisser passer 3 citoyens, donc ça te donne quand même 3+1+0aux citoyens qui vont attaquer par là. Mais il faut que ça soit des pirates. Le pirate, c'est le type de la carte. C'est tous des citoyens, mais il faut que ça soit des citoyens pirates pour avoir le bonus. Parce que le bleu, c'est... Bon, évidemment, dans le bleu, vu que c'était autour de l'univers des pirates, j'ai créé des cartes de pirates, mais d'autres sortes aussi. Donc, c'est à toi de mettre la bonne balance pour pouvoir utiliser Port Royal comme il faut. Bon, là, je viens de vous expliquer les cartes de lieu et en même temps, j'ai parlé des cartes de météo. Quand on part en guerre puis qu'on doit aller passer par un lieu pour se rendre de l'autre côté attaquer la cité, eh bien, c'est quelque chose qui prend du temps à marcher nanana, pour se rendre à l'autre cité. Donc, les citoyens qui partent à l'attaque, ils peuvent être affectés par des cartes de météo. Les cartes de météo vont être des cartes qui ne se jouent pas dans le sens normal de la carte. Tu la vires comme de côté et dessus, il y a un effet qui affecte tes joueurs à toi et il y a un effet météo qui affecte les joueurs de l'autre côté. La manière que ça va marcher, c'est que la pile de cartes météo, c'est une pile de cartes. Quand tu joues une carte de météo, tu la mets dans le milieu. Première carte de météo est mise dans le sens... inverse des cartes d'habitude, il y a un effet qui affecte toi, il y a un effet météo qui affecte l'autre joueur. Et si l'autre joueur il joue une carte de météo, tout ce qu'il fait, c'est qu'il la met en dessous de celle qui est déjà là. Et la météo, évidemment, c'est variant. Fait que sur chacune des cartes de météo, il y a un dé de tour qui indique combien de tours que cette météo-là affecte le champ de bataille. Donc, par exemple, si je joue une carte de météo qui s'appelle Déluge du Saguenay, elle va pouvoir peut-être durer 2 tours. Puis, qu'est-ce que ça dit? Ça dit « Les attaques terrestres sont interdites. » Fait qu'il y a toujours un texte qui t'affecte toi et il y a toujours un texte qui affecte l'autre joueur. Fait que là, c'est à toi de choisir dans quel sens tu mets la carte de météo parce qu'elle ne rechangera pas de sens à moins que, bon, tu joues une carte qui dit « tourner une carte météo dans un autre sens ». Ça peut arriver, je vais faire des cartes qui permettent de faire ça. Donc, il peut avoir une carte, j'ai créé une carte qui s'appelle « Éruption du Patromax ». Patromax, c'est un volcan. Qu'est-ce que ça dit? Texte de la carte qui m'affecte moi, ça dit « Aucune attaque n'est possible ». Qu'est-ce que ça dit du côté de l'autre joueur? « Aucune attaque n'est possible ». Ça, c'est une carte qui dit « Il y a un volcan qui est en éruption. Pendant 2 tours, il n'y a pas d'attaque qui est possible. » Donc, pendant ce temps-là, ça peut te permettre de te bâtir un peu de défense si toi, tu es mal pris. Donc, c'est ça le principe autour des cartes de météo. Mais, faut que tu te souviennes qu'est-ce que tu as joué aussi, parce que vous vous souvenez, j'ai dit, quand tu joues une carte de météo, s'il n'y en a pas en jeu, ça devient la première. Mais s'il y en a une en jeu, la tienne va en dessous. Donc, puis la météo, c'est ça. Dès que ta carte de météo du dessus a fini de s'affecter, elle retourne en bas de la pile. Donc, il faut que tu te souviennes un peu qu'est-ce qui s'en vient comme carte. C'est sûr, tu peux aller vérifier, mais tu peux bâtir ta stratégie en fonction de la météo qui va t'affecter ou pas. Évidemment, comme je disais, il y a 2 cartes à la météo. Le côté, il y a toujours un côté qui peut être positif pour toi, puis un côté qui peut être négatif pour toi. Donc, si on regarde une carte météo, si j'en lis une, ça dit pluie de crapaud, c'est une carte de météo. Il y a un des textes qui dit les attaques volantes sont interdites, puis de l'autre côté, il fait beau soleil, il n'y a pas de texte. Donc, ça veut dire que d'un côté, ça n'a pas d'impact, mais de l'autre côté, la personne ne pourra pas lancer d'attaque volante parce qu'il pleut des crapauds en ce moment. Donc, ça te permet, puis ça dure deux tours. Donc, cette carte-là te permet de bloquer les attaques volantes de ton adversaire pendant deux tours. Bon, un autre exemple. Éclat solaire. L'effet 1, c'est dit, si deux créatures ou plus que vous contrôlez attaquent, infligez deux de blessures à n'importe quelle cible. Donc, la météo va pouvoir t'avantager, va pouvoir te désavantager. Les cartes de météo, j'en ai pas beaucoup de faites en ce moment. Il faut que je m'y attelle, il faut que je réfléchisse encore un petit peu aux règles pour être sûr que ça marche bien. Maintenant, loterie, je vous en ai parlé. Autre type de carte, les cartes de reliques. Bon, dans Magic, c'est des artifacts. Ici, moi, j'ai des cartes de reliques. Bon, je voulais pas copier le nom des cartes de Magic. On peut copier la logique, les mécanismes, on peut pas copier là, ce qu'ils ont fait. Donc moi, bon, mes cartes de reliques, c'est l'équivalent des cartes artefacts. C'est des cartes qui se jouent, qui ne demandent pas habituellement de payer un type de couleur. C'est des cartes qui sont colorless. Tu peux payer avec n'importe quel type d'innovation. Ensuite, un autre type de carte que je n'ai pas encore faite, mais que je veux mettre en place, c'est des cartes de fléau et de bénédiction. C'est l'équivalent de cartes de maladie. Vous saviez dans le temps, par exemple, la peste, si la peste ou par exemple la rougeole ou la fièvre jaune arrivait sur le champ de bataille, il y a beaucoup des armées qui étaient décimées non pas par les attaques des autres, mais par les maladies qui affectaient le champ de bataille. Donc, dans mon jeu, je veux reproduire ça aussi. Donc, il va y avoir des cartes de fléau et des cartes de bénédiction. Fléau, ça va être quelque chose qui fait un effet négatif sur le champ de bataille. Bénédiction, c'est pour le guérir. Évidemment, j'ai des cartes qui vont avoir le pouvoir immunité aux maladies. J'ai inventé cette capacité-là. Mais quand tu n'es pas immunisé aux maladies, bien, la carte de maladie va pouvoir t'affecter. En ce moment, j'ai inventé une carte, par exemple. Peste rampante, c'est un fléau, c'est une peste. Texte de la carte, toutes les créatures du joueur cible gagnent un compteur permanent 0 à moins 0, moins 0, moins 1 à chacun de ses tours. Donc, les cartes de maladie, la manière que ça va se jouer, tant que la maladie est capable de se reproduire et capable d'affecter un nouveau citoyen par tour, elle continue à se propager sur le champ de bataille où tu l'as joué. Donc moi, par exemple, je peux dire, bon, je vais introduire la peste du côté de mon adversaire. Donc mon adversaire, lui, il a des cartes, il met en jeu ses cartes de citoyen de son côté. Puis là, quand la carte de maladie arrive en jeu, elle commence puis elle infecte une personne. Après ça, si le tour suivant, il reste des citoyens non infestés, on infecte une autre. Après ça, puis à un moment donné, si pendant un tour, la carte de maladie n'est pas capable d'infecter quelqu'un, ça veut dire que la maladie a quitté le champ de bataille, il n'y a plus assez de gens vivants ou ils sont immunisés, donc la carte est détruite. Donc c'est un peu le principe derrière les cartes de maladie, de fléau, et les cartes de bénédiction, par exemple, vont pouvoir dire « je guéris telle maladie, tel citoyen est immunisé », fait des choses dans ce style-là. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je vous ai dit qu'il y a 6 couleurs pour jouer, puis d'habitude dans Magic, tu tapes une carte, ça donne une couleur. Ici, dans mon jeu, vu que j'utilise les couleurs primaires et secondaires, si tu tapes une carte, tu sais, comme je vous disais au début, jaune et rouge ensemble, quand tu les mélanges, ça donne orange. Ben, dans mon jeu, ça va faire la même chose. Si tu joues, si tu tapes une carte jaune, ça donne du jaune. Mais si tu tapes une carte jaune, une carte qui donne de l'innovation jaune et de l'innovation rouge, tu peux les combiner ensemble pour donner du orange. Donc, ça, je trouve que c'est un bon principe dans mon jeu. Parce que dans Magic, c'est souvent difficile de jouer plusieurs couleurs. Mais là, avec le principe du fait que, disons que je mets juste une des cartes qui permettent de jouer jaune et rouge dans mon jeu, mais avec jaune et rouge, je vais être capable de faire quand même du orange. Puis imaginez, si je rajoute une carte bleue là-dedans, je vais être capable de donner n'importe quelle couleur, parce que j'aurai juste à taper jaune et bleu, ben ça va me donner un vert. C'est sûr que l'effet de ça, c'est que ça te coûte 2 pour donner un de la couleur, mais ça te permet de te dépanner puis de jouer plus facilement tous les couleurs. C'est sûr que tu vas pouvoir choisir de mettre une carte qui donne du vert en jeu. Mais cette carte-là, le vert, ne pourra pas se mélanger à une autre couleur. Fait que les couleurs secondaires ne pourront pas se mélanger, mais toutes les couleurs primaires auront l'avantage de, si tu les mélanges ensemble, entre couleurs primaires, de donner de l'innovation secondaire. Bon, là, je ne sais pas si j'ai perdu les gens avec mes règles, là, mais je crois que ceux qui ont déjà joué à Magic comprennent un peu la logique derrière ce que j'explique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un onglet dans mon fichier Excel aussi qui dit « Cartes en développement ». Je veux avoir des cartes de fête dans chacune des couleurs qui viennent donner un pouvoir spécial. Bon, la fête des moissons pourrait affecter la gang de chevalerie de telle façon. Bon, ça, c'est un peu ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, bon. Dans chacune des couleurs, si je regarde dans le rouge, eh bien, j'ai demandé à mes amis, ceux qui voulaient avoir une carte à leur nom, eh bien, ils auront une carte. Parce que je vais utiliser une intelligence artificielle pour faire le dessin de mes cartes. Bon, j'ai trouvé un logiciel, là, c'est une intelligence artificielle qui s'appelle GemCraft. Et bon, je ne sais pas si vous connaissez ChatGPT. ChatGPT, c'est pour jaser, là, poser des questions textuellement. Puis ils viennent, c'est fait par OpenAI. Puis ils viennent aussi, eux autres, avec le DALI, qui permet, tu écris crée-moi un soleil dans le style de Van Gogh, nanana, puis tu crées l'image. Mais ça, ça fait pas ça fait des beaux dessins, mais pas comme je veux. Tandis que j'ai trouvé cette GenCraft, lui, permet de faire des dessins vraiment magnifiques. J'ai dit, je veux avoir barbe bleue, avec une barbe bleue, avec un graphique, avec une aile en arrière de lui, avec un perroquet à côté. Puis ça donne des dessins comme les cartes de Magic. Puis en plus, tu peux choisir le style. Je veux que ma carte soit dans un style mythologique. Je veux que ça soit dans le style steampunk. Fait qu'il rajoute des éléments qui sont liés à, par exemple, steampunk, c'est plus du cuivre, du cuir. En tout cas, GenCraft, en plus, ça coûte 20$ canadiens par mois pour générer un nombre illimité de cartes, de dessins. Et ça te donne le droit commercial sur le dessin. Donc, j'ai le droit de le mettre sur mes cartes et le droit de vendre mes cartes. Tandis que les autres intelligences que j'ai regardées ne faisaient pas des beaux dessins et ne me donnaient pas les droits commerciaux sur mes cartes. Il fallait payer comme à l'unité. Fait que là, en ce moment, mon objectif, c'est de terminer la description de toutes mes cartes. Et une fois ça va être fait, je vais payer une fois 20$. Je vais prendre, durant mon mois, je vais essayer de générer tous mes dessins. Puis bon, je vais avoir les droits commerciaux sur mes cartes. Quelle autre chose que je voulais dire? Bon, il y a combien de cartes dans mon jeu de cité? Je me suis basé. Bon, moi, je suis un amateur de Magic. Je suis allé voir Magic quand il a sorti son premier set, le set Alpha. Ben, j'ai pas pris Alpha, j'ai pris Beta. Combien il y avait de cartes dans. Bon, Magic avait 5 couleurs et dans chacune de ces couleurs, il y avait 46 cartes. Il y avait 47 cartes d'artefacts puis 15 terrains de terrain. Donc, ça donnait, pour le set de départ de Magic, 292 cartes. Fait que moi, j'ai regardé ça, puis j'ai dit, bon, moi, je vais essayer de mettre des cartes de créatures un peu dans la même proportion, des cartes d'instant, des cartes d'enchantement, des cartes de rituel, de reliques. Mais là, moi, je rajoute météo, loterie, structure, fléau, bénédiction, lieu, cité. Et j'arrive à combien de cartes? J'arrive à 498 cartes. Je suis quasiment à 500 cartes. J'ai 200 cartes de plus à faire que Magic lors de son premier set. Mais bon, c'est correct. C'est juste de prendre le temps de tout faire ça. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Oh, ouais, je viens de voir que j'ai un autre type de carte. Je ne vous ai pas encore parlé. Je vais aller juste en chercher une. C'est les cartes héros de la cité. Dans Magic, il existe des Planeswalkers. Les Planeswalkers, c'est comme des héros qui arrivent en jeu et ils peuvent être attaqués comme le joueur magicien. Donc, tu peux décider que tu attaques le joueur adverse ou que tu attaques le Planeswalker. Le Planeswalker a toujours 3 pouvoirs. Puis ce pouvoir-là rajoute des compteurs de loyauté dessus. Donc, par exemple, pour plus 1, ça pourrait dire je pige une carte. Puis ça donne plus 1. Puis quand tu as assez de compteurs de loyauté, tu peux faire le gros pouvoir. Par exemple, moins 6. Détruit toutes les créatures en jeu. Mais là, évidemment, je veux pas copier Planeswalker de Magic parce que, bon, ça, c'est protégé encore par les droits. Ce qui est pas protégé, c'est les logiques de jeu. Donc, je peux pas copier Planeswalker. Moi, ce que j'ai inventé, c'est des héros de la cité. Et, bon, ça sera pas... ça marchera pas comme Magic en partant. Pour mettre un héros de la cité en jeu, dans Magic, eux autres, le Planeswalker, tu payes avec de la mana. Tandis que moi, le héros de la cité, c'est la cité qui le met en jeu. Donc, on va payer avec des points de vie de cité. Par exemple, j'ai un héros, on va aller voir Léonard. Léonard, c'est orange, c'est culturel. Léonard de Vinci, génie des arts, c'est le nom de la carte. Son deuxième nom, c'est un héros de la cité de type Leonardo, c'est son nom. Texte de la carte. Bon. Il coûte 4 points de vie à mettre en 4 points de vie de cité à jeu à mettre en jeu. Puis il arrive en jeu, évidemment, avec 4 compteurs. C'est l'équivalent des 4 compteurs de loyauté. Mais moi, ça coûte 4 points de vie pour le mettre en jeu. Il arrive avec ces 4 points de vie-là. Et maintenant, il peut monter ce chiffre-là. Il peut le faire monter ou descendre en utilisant les points de vie dessus. Donc, pour un point de vie de plus, mettez un marqueur génie sur Leonardo da Vinci, puis pigez une carte. Donc, si je joue au premier tour ça, il est rendu à 5. Maintenant, on peut faire enlève moins 2 points de vie. Tu peux chercher dans ta bibliothèque une relique ou un citoyen d'artiste avec un coût converti d'innovation inférieur ou égal au nombre de marqueurs génie sur Leonardo da Vinci. Mettez cette carte sur le champ de bataille. Donc, à mesure que tu rajoutes des compteurs de génie sur Leonardo, quand tu vas faire son petit pouvoir à moins 2, ça va. Disons que je suis rendu que j'ai 2 compteurs de génie sur Leonardo. Ça me permet d'aller chercher une carte d'artiste dans le jeu, dans mon deck, et de la mettre en jeu sans payer. Bon, ça c'est un bel avantage. Et le gros pouvoir, si tu réussis à attendre à pouvoir faire moins 6 points de vie, ça dit vous gagnez un emblème qui dit ère de la Renaissance qui dit au début de votre entretien, puis j'ai 3 cartes. Les sorts que vous lancez maintenant coûtent un de moins à lancer. Donc, c'est assez puissant. Tu vas faire... Leonardo va perdre 6 points de vie. Donc, tu essaies de faire ce pouvoir-là quand il est rendu à 7 ou 6, ça le sacrifie, mais quand même. Tu gagnes cet emblème-là devant toi qui te dit à chacun de tes tours maintenant, tu piges 3 cartes puis tes sorts ils coûtent moins de 1 à jouer. Les héros de la cité, évidemment, c'est des cartes qui vont être fortes. Puis que ton adversaire va essayer de détruire, évidemment, quand il voit que tu mets ça en jeu, il va essayer de la détruire avant que tu joues son gros pouvoir. À Magic, c'est la même chose. Là vous vous dites, ah ouais, mais c'est fort, puis j'ai 3 cartes. Mais c'est toujours ça. Les Planeswalkers ou héros de la cité dans mon jeu vont avoir des pouvoirs très puissants. Évidemment, j'ai mis en place un système de rareté dans mes cartes, comme à Magic. À Magic, si je vois Magic, on a des cartes communes, uncommon, rares, puis légendaires, mythiques, je pense. Moi, dans mon jeu, je vais avoir commune, inusité rare, puis légendaire, puis épique. Fait que, bon, c'est juste une question de ratio. Ça veut dire que quand je vais faire imprimer des cartes, disons que je vais imprimer 1000 cartes. Sur les 1000 cartes, il va en avoir 600, c'est des communes. 300, c'est des unicités. 200, c'est des rares. Légendaires, il va en avoir 50. Puis des épiques, il va en avoir 5. Là j'ai pas fait là, pour que ça donne 1000, là, mais vous voyez le genre. Là. Sur 1000 cartes, il va avoir juste 5 épiques. Il va avoir genre 20 légendaires. Puis les autres, c'est la rareté la moins qui en a le plus. Donc, évidemment, les cartes fortes, il va en avoir moins en jeu. Donc, ça... C'est comme ça que Magic ont fait pour que ça intéresse les gens. Évidemment, on achète de plus en plus de paquets parce qu'on veut avoir ces cartes-là qu'on n'a pas souvent. Et voilà. Donc, voilà pour la rareté. J'ai-tu d'autres choses que je voulais vous parler? Ah oui. Une des particularités des héros de la cité, c'est qu'ils ont... Je dois retourner dessus pour voir comment j'ai appelé ça. Ils ont un pouvoir qui s'appelle... Tous les héros de la cité à date que j'ai créés ont le pouvoir remboursement citadin. Ça veut dire quoi? Ça, c'est quelque chose que j'ai inventé durant une nuit où je dormais pas, puis je me suis dit, ça serait une bonne idée que, vu qu'on a payé avec des points de vie pour le mettre en jeu, ce héros-là, qu'on soit capable de le retourner dans notre cité, dans le fond, puis qu'il redonne ses points de vie. Fait que tu vas pouvoir décider, quand tu es à la phase cité, si tu veux pas renvoyer ton héros de la cité pour qu'il redonne ses points de vie à la cité. Évidemment, si tu fais ça, ça détruit ta carte. Mais si tu vois que l'autre est en train, qu'au prochain tour, il va te le péter, ton Leonardo, parce qu'il a tout en place pour venir te l'attaquer, puis que tu survivras pas, ben autant dire à Leonardo, retourne dans la ville, puis redonne-nous... reviens... c'est comme si, dans le fond, qu'il rentre dans la cité, là, il retourne dans la cité, puis il se met à l'abri, puis là, il est caché, mais... En faisant ça, ben, son énergie retourne à la cité. Donc, c'est ça le pouvoir remboursement citadin. Si je vois dans les règles, je l'écris je ne sais plus où. Mais bon, parce que j'écris mes règles à mesure que j'ai mettre les pouvoirs, mais ça dit en gros que durant le tour de cité, ben, dans la phase de cité, si Leonardo il avait 5 points de vie, ben, on détruit Leonardo et on gagne 5 points de vie. Ça, c'est un bel avantage parce que si tu fais juste le pouvoir positif sur Leonardo qui était plus 1 puis j'ai une carte, ben Leonardo, il peut être 4, 5, 6. Si tu réussis à bien le protéger, 7, 8, 9, c'est comme un accumulateur de vie. Puis quand tu es prêt, tu le retournes dans la cité puis il te redonne des points de vie. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre? Ah oui, j'étais en train de vous parler que j'ai demandé à mes amis si vous voulez être dans le jeu. Donc, je vois avec GenCraft, l'intelligence artificielle, on peut l'entraîner, l'intelligence artificielle. Je lui fournis ma photo, par exemple. Et là, je lui dis, crée-moi un pirate qui a le profil de mon dessin. Donc, je vais être capable de bâtir une carte qui est faite en format animation, cartoon, mystique. C'était quoi l'autre? Steampunk. En tout cas, il y en a 25 types différents. Puis cette carte-là va me ressembler, donc je trouvais ça drôle de mettre des cartes en jeu sans appeler la carte nécessairement Frédéric. Moi, j'ai créé une carte qui s'appelle Frédéric. Ben là, devant moi, j'ai la carte. J'ai demandé à mes amis s'ils voulaient être dans le jeu, puis là, il y a Nicolas qui m'a répondu que ça ne les dérangeait pas. Donc, il y a une carte que j'ai créée. Nicolas va être dans le rouge. Rouge, c'est les samouraïs, parce que je sais que Nicolas, dans Magic, il aime bien jouer des decks de samouraïs. Donc, je l'ai mis dans ma couleur rouge. Donc, la carte s'appelle Nicolas, maître du katana. C'est une carte rare de type citoyen samouraï. C'est un 3-3, 3 attaques, 3 défenses. Il coûte 2 colorless à mettre plus 2 rouges, donc il coûte 4. Et son pouvoir. Il a la capacité hors de la feinte. Hors de la feinte, c'est quand ce citoyen-là est déclaré comme seul attaquant, il gagne un marqueur de charge. Puis le marqueur de charge, tu peux le détruire à n'importe quel moment, puis il te donne un bonus de plus 2, plus 0. Donc à chaque fois que Nicolas, maître du katana, va attaquer, ça va lui donner un plus 2, plus 0 qu'il peut soit utiliser immédiatement ou accumuler. Tu peux dire, bon, ce tour-là, je ne l'utilise pas. Mais prochain tour, ben, je vais en avoir un deuxième si j'attaque tout seul. Donc, ça pourrait donner potentiellement un plus 4. Donc, il deviendrait une créature 7-3. Donc, c'est ça. Fait que je fais des cartes qui nous représentent. J'ai fait une carte, si je vais voir dans le jaune, j'ai quoi? J'ai Alexandrin, ça c'est mon frère, Mélodiste des Sables. Fait que mon frère, lui, c'est un bon guitariste. J'ai fait, il est de type citoyen musicien. Puis lui, si tu payes X innovation, puis tu tapes la carte, ça dit « Renforcer un citoyen ciblé de +1/+1 pour chaque innovation jaune dépensée. » Donc, c'est une carte qui c'est comme il fait de la musique, puis il permet de booster les autres. C'était un 2-4 qui coûte 2 colorless puis 2 jaunes, donc il coûte 4 à mettre en jeu. Puis ils ont tout un flavor text, c'est des petits textes là, qui disent... C'est comme un texte amusant qui décrit la carte. Ça dit « Lorsqu'Alexandrin joue, même les dunes écoutent. » Voilà, ça c'est pour les cartes à l'image de mes amis ou de mes garçons. Il y a Émile, troubadour des légendes. Si on le tape, ça dit « Les citoyens chevaliers que vous contrôlez gagnent la vigilance jusqu'à la fin du tour. » Donc, ils ne tapent pas. C'est un 4-4 qui coûte 4. Dans le orange, qu'est-ce que j'ai? J'ai Federico, maître des couleurs. Je ne vous dis pas qu'est-ce que ma carte fait. Et violet, j'ai Julien, alchimiste des ombres. C'est un de mon autre garçon. Celle-là a fait d'autres choses aussi. Bon, voilà. Autre chose qu'il y a dans mon jeu... Dans chacune des couleurs, j'ai une carte qui est liée à Augustin. C'est qui Augustin? Bon, Augustin, c'est un de mes oncles qui est un peu nono. Puis là, j'ai créé des cartes d'Augustin dans chacune des cartes. C'est toutes des 0-1. Il y a toujours dans chacune des 6 couleurs, il y a une carte Augustin qui est une 0-1, 0 de pouvoir, 1 de défense, qui coûte 0 à mettre, mais qui a un pouvoir spécial ou drôle. Si on regarde dans le bleu d'un pirate, c'est Augustin Jambe de Bois. C'est un pirate pecno. Ouais, c'est ça. Tous mes Augustins sont de type Pecno. Pecno, ça veut dire qu'un peu nano, un peu pas bon. Donc, il va y avoir des cartes qui peuvent affecter juste les cartes de type Pecno. Donc, Augustin Jambe de Bois, citoyen pirate Pecno, il y a la synergie portuaire. Donc, ça, c'est une capacité qui dit que pour faire son pouvoir, il doit absolument y avoir de la couleur. Comme synergie portuaire, ça veut dire que pour que Augustin Jambe de Bois fasse son pouvoir, il faut qu'il y ait du bleu en jeu. Quel autre pouvoir qu'il y a? Il est immunisé aux maladies. Il y a Flash, on peut le mettre n'importe quand. Puis son pouvoir, si Augustin a été sacrifié durant le tour, vous pouvez le remettre dans votre main à la fin du tour. Fait qu'il revient tout le temps, Augustin Jambe de Bois. Il revient dans ta main, tu peux le remettre en jeu. Si on regarde dans le jaune, ah oui, dans le jaune, c'est mon plus drôle. Il s'appelle Ali Gustin et les 40 voleurs, citoyen humain Pecno. Bon, il y a la synergie merveilleuse, même chose, pour que son pouvoir marche, il faut qu'il y ait du orange en jeu. Immunisé aux maladies, c'est un 0-1. Et son pouvoir, on peut taper, puis en payant un jaune, on met 2 jetons de citoyen voleur 0-1 en jeu. Fait que là, à chaque fois que tu tapes Augustin, Aligustin, je veux dire. Tu le tapes, puis tu payes un jaune, ça te permet de mettre deux créatures, deux citoyens 0-1 en, en jeu qui sont jaunes. Puis le pouvoir qui suit ça sur la carte, c'est marqué « Si vous contrôlez 40 voleurs et prononcez la phrase magique « Sésame, ouvre-toi », vous remportez la partie. » Donc, le but avec Aligustin et les 40 voleurs, c'est d'arriver à mettre 40 voleurs en jeu et de gagner la partie grâce à cette condition-là. Évidemment, il va y avoir des cartes d'instantané ou éphémères ou des cartes de rituel qui vont pouvoir dire doubler votre nombre de jetons en jeu. Donc, il va y avoir une manière de gagner avec Aligustin. Fait qu'Aligustin, ça semble toujours être une carte idiote, mais qui amène quand même un certain avantage vu qu'elle coûte zéro à mettre en jeu. En tout cas, ça me tentait de faire hommage à mon oncle un peu nono. Donc, il y a des Augustins un peu dans chacune des couleurs. Comme dans le vert, c'est Augustin fou du Graal. Quand Augustin fou du Graal arrive sur le champ de bataille, pigez une carte. Bon, ben gars, c'est quand même un beau pouvoir. Il coûte rien à mettre, mais quand il arrive en jeu, il pige une carte. Mais ça veut dire qu'il t'a quand même coûté une carte à jouer. T'en repiges une autre, donc c'est comme sans effet, mais t'en joues un 0-1. En tout cas, je sais pas, j'ai mis des Augustins dans toutes mes couleurs. Quoi d'autre? Je pense que j'ai fait le tour. J'ai réussi à vous expliquer mon jeu. C'est maintenant plus clair dans ma tête. J'espère que vous comprenez le jeu. Le jeu va être disponible très bientôt. D'ici un an, là, le jeu est fini, le jeu est imprimé. Et le jeu... bon, qu'est-ce que je veux faire pour le distribuer? Bon, je ferai un site web, puis pour le publiciser, bon, mon objectif, c'est de m'associer avec une personne connue du milieu artistique. J'ai déjà choisi, c'est quelqu'un qui joue à Magic. Ben, pour ceux qui le connaissent, ça, c'est Jean-François Provençal. J'aimerais ça que lui devienne le porte-parole de mon jeu. Quand je refrette imprimer le jeu, j'y enverrai des decks, j'y enverrai un set de jeux au complet, puis il pourra jouer avec ses amis. Puis s'il aime ça, ben, on se parlera, puis il pourra devenir mon porte-parole si ça l'intéresse. Parce que lui, je sais que... Bon, j'écoutais le podcast de Tumaniaise. Maintenant, c'est terminé. Là, ils sont séparés. C'était les deux gars de Sexe Illégal puis Jean-François Provençal qui avaient un podcast. Puis souvent, ils parlaient de Magic parce que Jean-François, il trippe là-dessus. Puis il y a plein d'autres gens du milieu artistique, quand on l'écoutait parler, qui jouent aussi à Magic. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas... Peut-être ça va l'intéresser, peut-être ça ne l'intéresse pas. Moi, je lance l'idée comme ça. Mais en tout cas, je le contacterai à ce moment-là. Puis j'y offrirai, ça te tente-tu d'essayer mon jeu? Oui, si oui. Et si tu l'aimes, ben ça te tente-tu d'en parler un peu pour permettre qu'on en vende un peu? Puis sur Facebook, il y a déjà, lui, des groupes de Facebook de Magic. C'est sûr que si on parle de mon jeu dans ce genre de groupes-là, ça peut permettre de créer un peu de autour du jeu pour qu'on arrive à en vendre un petit peu. Fait que c'est ça. C'est mon projet en cours de cité. Bon, j'avais-tu d'autres choses à vous parler? Non, je pense qu'on va aller à la pause. Là. Je me suis étendu un petit peu trop là-dessus. OK, fait qu'on part en musique et au retour, on y va avec les sujets que j'avais déjà préparés. Là, on était dans l'improvisation et je pense que ça a été un peu trop long. Mais j'espère que c'était quand même un peu intéressant. Donc, si on résume tout ça... Ben, vous devez commander vos cartes de Star Wars Unlimited présentement, c'est le temps. Si vous voulez embarquer, vous allez pouvoir acheter les cartes du premier set. Si vous voulez embarquer dans Disney, il reste encore des paquets du deuxième set qui se vendent encore si vous fouillez un petit peu, à prix raisonnable. Et pour mon jeu, ben, envoyez-moi plein d'argent par la poste pour me permettre de continuer à créer. Merci. Voilà, on part à la musique.